De Gaston Leroux, Les aventures de Chéri Bibi. Tome 1, Les cages flottantes. Chapitre 1, le numéro 3216. Mon rêve, à moi, a toujours été d'être un honnête homme, fit petit bon Dieu en jetant un coup d'œil du côté des gardes chiourme qui, revolver au poing, se promenaient entre les cages. « Pourquoi faire ?» demanda Gueule de bois. « Pourquoi faire ? Pour m'établir marchand de vin, donc !»« Tout le monde ne peut pas être marchand de vin !» philosopha Gueule de bois. « Ça serait trop commode. Chacun a son lot en venant au monde. Ainsi, toi, petit bon Dieu, t'étais bien sûr destiné à arracher ton copeau à Cayenne. Comme dit Chéri Bibi, fatalitas !» « Ce qui est écrit est écrit. On ne peut pas y faire à la Providence. À propos de Chéri Bibi, savez-vous ce que m'a dit le rouquin ?»« C'est point ce que te dit le rouquin qui m'occupe, » répliqua Petit Bon Dieu en baissant la voix. « Mais le moment est venu de causer sérieusement. Voyons, c'est-y pour aujourd'hui ? C'est-y pour demain ?» Et les autres bandits, sur le même ton, répétèrent autour de Petit Bon Dieu « Il a raison, c'est-y pour aujourd'hui, c'est-y pour demain ?»« Vos plombs !» gronda Gueule de bois. « C'est pour quand Chéri Bibi voudra. Mais vos plombs, tonnerre de Dieu !» Et comme un garde se glissait sournoisement le long des barreaux de la cage, les jambes en arc pour contrebalancer le roulis qui ce jour-là était assez dur, il répéta tout haut « Non, mais t'as pas entendu le rouquin ? Faut-il qu'il soit bestiaux pour parler comme un ministre ? Monsieur fait sa patate gueule. La seule chose qu'il reproche à Chéri Bibi, c'est d'avoir barboté le macabé de la marquise. Il dit que les cimetières, c'est sacré. »« Monsieur nous fait gonfler !» ricana béatement Petit Bon Dieu, assis sur son sac. « Les riches n'ont pas besoin d'emporter leurs broquilles dans la tombe. »« Tu vois cette main ?» répliqua le rouquin. « Elle a fait autant de victimes qu'elle a de doigts. Eh bien, elle n'aurait pas fait ça, ça lui répugne. » « Chéri Bibi a fait ce qu'il a voulu. S'il n'était pas au fer, tu bouclerais ta cassolette. » Pour sûr. Demande donc au canac s'il faisait le dégoûté à l'amphithéâtre. » Le rouquin secoua le front, têtu. Que Chéri Bibi eût fait ce qu'il avait voulu, chouriner, cambrioler, et comment, sauter de gerbier et tous les enjuponner, étriper le bourgeois, mais avoir fait ça, il ne l'admettait pas. Ça portait malheur. On lui sortait le canac, un ancien médecin qui avait été condamné à 10 ans de travaux forcés pour n'avoir pas voulu dire à quoi lui servaient les lanières de chair qu'il venait de découper sur un de ses clients encore vivant, retenu de force chez lui et attaché sur son canapé de cuir. Eh bien, le canac travaillait dans son métier, car ne morte ou chair vivante, tous les marchands de mort subitent la tripote. Ça ne leur fait pas peur. Et, tourné vers le canac, le rouquin ajouta avec un rire infâme « Ils en font ce qu'ils en veulent, et ce n'est pas encore pour rien qu'on appelle celui-là le canac. » À cette allusion, terrible, à une anthropophagie bien connue chez les indigènes de la Nouvelle, le canac, qui était jaune, devint vert. L'autre continuait, suivant son idée fixe. « Je vous le dis, Chéri Bibi n'est pas né pour ça. Il avait mieux que ça à faire. Il a manqué de délicatesse. »« Chéri Bibi est un géant, et vous n'êtes que des Aztèques !» jeta le canac avec mépris en leur tournant le dos. « C'est vrai, il volait les morts, » fit Petit Bon Dieu, « mais c'était pour les pauvres. »« Je veux bien, » s'entêtait le rouquin, « mais ça jette du discrédit sur la corporation. C'est pas encore ça qui fera avancer la société. Je n'ai jamais lu qu'il fallait faire ça dans Karl Marx ou dans Kropotkine. » Le rouquin n'avait rien lu du tout. Seulement, il ne manquait jamais l'occasion de citer ces grands noms qu'on lui avait jetés souvent dans les réunions publiques, comme appartenant à des personnages importants qui partageaient son avis sur la mauvaise constitution de la société. « Chéri Bibi a tout fait dans la vie !» expliqua encore Petit Bon Dieu. « Même, il a débuté dans la carrière par être victime de son innocence !» Petit Bon Dieu s'exprimait le plus souvent en termes choisis, sous prétexte qu'il avait été clerc d'huissier. On l'appelait Petit Bon Dieu parce que, rond comme une barrique, tassé, court sur pattes, le cou dans les épaules et toujours les mains croisées sur le ventre, il ressemblait au petit dieu d'Asie qu'on trouve dans la brocante. Il soupira. « Oui, innocent, du moins c'est lui qui le dit, et je cite son exemple dans le livre que j'écris sur la réforme de la magistrature. Ah, les vœux !» Ici, Petit Bon Dieu soupira, en songeant à la perpétuité de la peine à laquelle elle venait de le condamner, pour avoir, dans une crise nerveuse, avait affirmé ce lymphatique, donné 18 coups de couteau à une vieille dame un peu avare qui lui avait refusé les clés de son coffre-fort. « C'est comme ça maintenant dans la vie de ce monde, » gémit le rouquin. « Il suffit qu'on n'ait rien fait pour qu'on vous envoie au bagne. J'en ai zigouillé 5, parole d'honneur. Pas un de plus, pas un de moins. Eh bien, c'est pour le 6e, que je n'ai jamais vu, que vous avez le plaisir de m'accompagner. Je vous le dis comme je le pense. J'ai jamais commis de meurtre inutile. J'ai toujours eu de la conscience. Je suis un misérable, c'est vrai. Un voleur, c'est vrai. Un assassin, c'est encore vrai. Mais c'est pas une raison pour qu'on condamne un innocent. » « C'est tout ce que la société aura jamais fait pour toi !» déclara Petit Bon Dieu philosophe. « Tandis que Chéri Bibi a toujours fait quelque chose pour la société !» interrompit Gueule de Bois, qui, d'un œil inquiet, suivait tous les mouvements des gardes-chiourmes. « Avez-vous vu comme il a craché sur la bobinasse du commandant ? Encore un qui me débecte avec ses airs plaintifs !» Vous avez vu comme il disait à Chéri Bibi ? Vous n'avez besoin de rien, Chéri Bibi ? Vous n'êtes pas malade, Chéri Bibi ? Et v'lan, Chéri Bibi y a soufflé du miel sur la musette. Et qu'il a bien fait. N'avons besoin de la pitié de personne, nous autres. C'est la justice qu'il nous faut. C'est-y pour aujourd'hui ? C'est-y pour demain ? Murmurèrent encore des voix rauques au fond de la cage. Gueule de Bois gronda plus fort, comme pour couvrir les murmures. Si le commandant filait si doux avec Chéri Bibi, c'est qu'il avait le taf. Comme ont eu le taf les jurés qui n'ont pas osé le condamner à mort par peur des représailles. Tout le monde avait le taf de Chéri Bibi. À ces mots, les ombres qui étaient penchées au fond de la cage sur les sacs et les hamacs roulés à l'ordonnance se redressèrent et un murmure prudent et rythmé, mais qui allait bientôt s'élargissant, commença dans l'entrepôt. « Dans le résiné, qui trimarde ? Qui a fait jacter la bavarde ? Qui fout le taf à tout Paris ? C'est Chéri ! La République nous emberluche, du bois de Boulogne à Pantruche, qui fait sauter tout le fourbi, c'est Chéri Bibi, c'est Chéri Bibi. » Ils se turent sous les coups de poing et les coups de gueule de Gueule de Bois, qui leur jetait de sa voix sourde « 22, v'là les artoupans !»« Chouïa, chouïa !» Silence, commanda aussitôt l'Africain, célèbre pour avoir versé du plomb fondu dans l'oreille de sa maîtresse. Les surveillants accouraient. Ils étaient furieux. Des clés grincèrent dans les serrures. On apercevait à travers les barreaux, grâce à la lumière diffuse, pauvrement versée par les hublots grillés, les gardiens, revolvers au poing, qui entouraient les porteurs de baquets. Fixe ! La cage où se trouvait Gueule de Bois, Petit Bon Dieu, le Rouquin et le Canac, était la première de la batterie haute du côté de la Poulaine du Bayard, vieux navire de guerre, devenu transport et affrété nouvellement pour conduire les forçats et les relégués de l'île de Ré à Cayenne, depuis que la Loire ne suffisait plus à la besogne. C'est par cette cage que commençait la distribution des fricots. Au commandement de Fixe, les 60 bandits qui se trouvaient entassés dans cette cage se levèrent d'un bond. Masques tragiques, les uns blêmes, les autres verdâtres, joues creuses et yeux brillants, tête et face rasées, tous vêtus du même bonnet carré, veston et pantalon de grossière étoffe brunâtre, épaisses chaussures jaunes. Au bras, l'écharpe avec le numéro, car ils n'ont plus de nom pour l'administration. Et ils s'alignent en se bousculant, ayant aperçu le second du bord, qui est terrible, en voyant au cachot, faisant mettre au fer pour des riens. Les gardes-chiourmes sont des âmes damnées, injuriantes et frappantes. Le rigolo, toujours prêt à partir, comme s'il avait besoin de se soulager de sa poudre et de ses éclairs rentrés. Elle se grouille un peu, la pègre, sous la bousculade des gardes-chiourmes. Les gardes entrent dans les cages comme le dompteur chez les fauves. L'arme prête, le cou tendu vers les bêtes, ils font le tour des regards pour y lire la colère, les révoltes, la rage impuissante, et faire reculer tout cela sous le canon d'acier. Fixe ! Ceux qui ne vont pas assez vite à leur place, devant leur sac matriculé, les talons joints, les mains dans le rang, sont secoués, bourrés d'importance. Monsieur de Vilaine, lieutenant de vaisseau, le second du Bayard, a de petits yeux perçants auxquels rien n'échappe. Un hamac mal roulé, une baille qui n'est pas à sa place, une de ces brutes qui hausse les épaules, il voit tout. Il n'a qu'un mot à la bouche, cachot. Ah, c'est lui qui aurait cassé la gueule à chéri Bibi s'il avait été à la place du commandant, et on n'aurait plus entendu parler du monstre. Et le commandant et lui n'auraient plus à garder un homme qui s'était enfui déjà une fois du bagne, deux fois du dépôt, trois fois d'une maison centrale, et pour qui les portes semblaient n'avoir été faites que pour s'ouvrir et les barreaux pour soutenir la corde ou le drap de lit libérateur. Ah, on serait bien passé d'une pareille commission. Ils vivaient tous deux dans l'épouvante de relâcher cette terreur sur le monde. Enfin, chéri Bibi était au fer. C'était toujours cela, et jusqu'à la fin de la traversée. De Vilaine l'avait fait jurer au commandant Barachon qui ne revenait pas de l'ignoble affront qu'on lui avait fait subir à lui, toujours si poli avec les condamnés et professant des théories humanitaires. « Ça vous apprendra !» lui avait dit de Vilaine. Le lieutenant de vaisseau entra dans la cage, rageur, derrière les gardes, et, suivi du surveillant général inspecteur, accourut lui aussi au bruit insolite de l'entrepôt. « Si on vous privait de fricot, vous savez bien qu'il est défendu de chanter, » dit l'inspecteur. « Celui qui veut aller rejoindre à Fontcalle le 3216, qu'il le dise !» cria M. de Vilaine. « 2 jours de cachot au chef d'escouade pour ne pas avoir roulé le hamac de chéri Bibi !» Le chef d'escouade, c'était justement l'Africain, qui était en train de prendre livraison des 3 baquets qui revenait à sa cage pour le repas de ses 60 hommes et de suspendre les plats au pont supérieur par le truchement de la ficelle. À l'annonce du châtiment qui le frappait, il dit comme un écolier « Chic !»« 4 jours !» Il se tut. Monsieur de Vilaine le fusillait des yeux. Monsieur de Vilaine ne comprenait pas qu'un homme qui avait versé du plomb fondu dans l'oreille de sa maîtresse put répondre « chic » ou tout autre chose à un lieutenant de vaisseau. Cela le mettait hors de lui. Sa colère immobilisait toute la cage. Les poitrines des forçats autour de lui ne respiraient plus. C'est que les punitions encourues pendant la traversée avait une répercussion terrible sur la vie qu'on leur accorderait de mener à Cayenne. « On chante ? On est joyeux ici ?» continuait de gronder l'officier. « Sans doute parce que le 3216 vous a fait de la place. » C'était exact que le départ de Chéri Bibi avait fait de la place dans cette cage où ils étaient entassés comme harengs en caque. En même temps que Chéri Bibi, on avait descendu au fer les deux gardiens qui ne le quittaient jamais, car bien entendu, on lui faisait l'honneur d'une surveillance spéciale. D'abord, les gardes-chiourmes avaient été doublés dans le couloir où était sa cage. Ensuite, dans sa cage même, deux gardiens avaient l'œil sur lui, nuit et jour. Et au bout du couloir, aux écoutilles, à toutes les ouvertures qui permettaient de descendre aux cages des entrepons, il y avait des soldats, prêts à tirer à la moindre alerte. Le second, comme s'il flairait quelque surprise, quelque méchant coup préparé dans l'ombre horrible de ce coin de l'enfer, faisait le tour de la cage, bousculait les sacs. Il en ouvrit un au hasard. Il savait bien qu'il ne pouvait trouver là-dedans que les objets réglementaires, après la fouille totale des hommes au départ. Mais quand même, avec ces démons, on n'était jamais tranquille, jamais sûr de rien. N'ayant rien trouvé d'extraordinaire dans le sac, il passa sa bile sur le plancher, qu'il trouvait mal lavé. « Qu'est-ce qui m'a faubardé ça ? » hurla-t-il. Et se retournant sur son escorte, « Désormais, le lavage des cages sera fait par une série désignée à cet effet. Le surveillant chargé de la série qui se trouve de corvée devra, après la propreté, s'assurer qu'elle a été bien faite et en rendre compte au surveillant général qui m'en informera ou à l'officier adjoint. » Puis, pivotant sur les talons, il se retrouva en face des condamnés. « Et vous, écoutez-moi bien ceci. Les hommes de corvée, gardant ce service pendant 24 heures, ne seront autorisés à suivre les autres sur le pont pendant la promenade d'une demi-heure quotidienne qu'après leur besogne accomplie. On vous délivrera pour cela, en plus des faubères que vous ne mouillez pas assez, des raclettes. Je veux que vos cages soient propres comme le salon du commandant, nom de... C'est entendu? Vous avez compris, vous, le chouïa, le chef d'escouade? « Le commandant a dit... » murmura dans un soupir l'Africain. « Le commandant, le voilà !» Et le second lui mit sous le nez son revolver. Les gardes étaient dans un état de jubilation énorme. Ça ne traînait pas avec celui-là. Mais l'un d'eux se prit à rire trop haut pour son malheur. Le second lui colla 24 heures de cachot. Ça lui apprendrait à être sérieux dans le service. Ce fut le tour de joie des bandits, dont l'un cria dans l'ombre « Bravo !» En entendant cette apostrophe approbatrice, M. de Vilaine, qui avait décidément mauvais caractère, ordonna qu'on remportât l'un des trois baquets plats, destinés à la cage. Ça, c'était un fameux rationné. Ça leur apprendrait à donner leur avis quand on ne leur demandait rien. Il sortit dans un silence effrayant. Les gardes-chiourmes partis, les grilles cadenassées, alors les dents grincèrent, les mâchoires claquèrent. On avait encore rogné sur leur faim. Et le groupe formidable des colères roula autour de gueules de bois. « C'est-y pour aujourd'hui ? C'est-y pour demain ? C'est pour quand Chéri Bibi voudra ?» À cause du roulis, les plats, les deux baquets, étaient suspendus à la ficelle. Le chef d'escouade commanda les deux premières équipes de 10 qui, rangées autour de chaque baquet, commencèrent à puiser dans le mélange immonde qui roulait là-dedans. Les chefs de plats surveillaient les coups de cuillère de bois s'enfonçant dans ce brouet à la colle où finissaient de pourrir des morceaux de carottes, de navets, de poireaux, ou plutôt des détritus de tout cela, accompagnés de faillots qui, eux, en raison d'une solidité à toute épreuve, avaient conservé leur forme et leur identité que rien ne pouvait leur faire perdre. Ce jour-là, un baquet devait contenter la faim de 30 au lieu de 20, à cause du rationné. Heureusement que quelques-uns, incommodés par le roulis, restèrent vautrés dans les coins, près des bailles, et avaient refusé de répondre à l'appel. Les mufles penchés au-dessus des baquets comme les cochons sur l'auge, les forçats mangeaient. Ils mangeaient en grognant encore contre le second, contre les gardes chourmes, les artoupans, comme ils continuaient à les appeler, bien que ceux-ci eussent titre maintenant de surveillants militaires. Ces surveillants ne cessaient de passer et repasser devant les grilles avec des jurons, des menaces, des ricanements atroces. Un moment, il y eut, au fond de la batterie, venant d'une cage lointaine, un bruit retentissant de grilles claquées et un hurlement de douleur. Les forçats, en train de manger, ne levèrent même pas la tête. Ils savaient ce que c'était. Encore un relingue, bagnard, qui avait fini son temps de cachot et qu'on ramenait dans sa bauge et qui n'était pas rentré assez vite. Alors, on lui avait claqué la grille sur les doigts. Ça, c'est l'amusement des gardes chiourmes, les doigts écrasés. Ah, les salauds d'artoupans. Le jour où ils en tiendraient un, ce serait-il pour aujourd'hui? Ce serait-il pour demain? Ce sera pour quand chéri Bibi voudra. Tout de même, qu'il se presse. Les équipes succèdent aux équipes autour des plats. Ceux qui ne mangent plus regardent manger les autres. On laisse à chacun sa part. On est juste. Et on se frotte le ventre. Le roulis ne fait qu'augmenter. Il y a des glissades, des heurts, des cris parce qu'on s'écrase les pieds. Un imbécile s'accroche au plat et voilà le baquet qui commence la danse de la chaloupe en détresse. On l'arrête trop brusquement. Une clameur, les faillots ont fichu le camp. Ça, c'est du boni pour ceux qui ont fini avec le plat. Il se rue, se jette sur cette chose abominable qui englue le plancher. Fichutant. Les sacs roulent les uns sur les autres, et on entend le chambardement des objets déplacés dans les entrepôts. Un artoupan s'étale sur le ventre, entre les cages, et son revolver part. On rit, comme savent rire les forçats. La balle n'a tué ni blessé personne. « J'aurais voulu qu'à vous crève !» grinça l'artoupan en se relevant. Dans une cage, un forçat proteste parce qu'il prétend que l'eau qu'on lui donne à boire est salée. Et la houle toujours augmente. La mer bat les flancs du navire et le choc des vagues sur la poulaine produit des détonations semblables à celles d'une batterie de pièces de 12. C'est le moment où ceux qui mangent maintenant, à la ficelle avec gueule de bois, l'écoutent de toutes leurs oreilles. Le rouquin, le canaque, Petit bon Dieu et l'Africain, lui-même, en oublient de savourer la soupe. Mais ils font semblant d'être uniquement préoccupés par leur gloutonnerie. « Gémissez pas !» souffle gueule de bois. « Comme disait notre curé, les temps sont proches. C'est pas pour rien que chéri Bibi s'a fait mettre au fer. S'il a craché à la musette du Mécart, le commandant, c'est qu'il voulait pas y couper. Il a son plan, il y a du bon. Eh, comment qu'on fera maintenant qu'il est au fer? Susurra Petit bon Dieu. Moi, je fais rien sans lui. J'ai confiance qu'en lui. Ça le regarde, il connaît son affaire. Il n'y avait pas moyen de s'entendre tant que les artoupans qui le gardaient étaient dans la cage. C'est pour ça qu'il s'est fait fiche au fer. Comprenez-vous maintenant? On peut causer. « Moi, demain, je prends le cachot, » dit l'Africain. « Dépêche-toi, que je sache à quoi m'en tenir. C'est-il vrai qu'on soit tous d'accord pour bouleverser ?» se révolter. « Pour sûr !» affirme Gueule de Bois en hochant la tête. « Tous d'accord pour s'emparer du bâtiment ?»« Pour sûr !» « La batterie basse en est ?»« La batterie basse comme la batterie haute. » Et il n'y aura pas de casserole. Non, pas de roussi. Tous d'accord, le cœur sur la main. Se faire crever s'il le faut. Vaincre ou mourir, quoi. Mais après qu'on sera les maîtres, quoi qu'on fera ? Ah, bien, chéri Bibi nous le dira. Paraît qu'on pourra faire les corsaires. On pourra faire ce qu'on voudra, quoi. Puis qu'on sera les singes, les maîtres, à nous tout seuls, avec tout ce qu'il y a dans la cambuse et tout le fourbi, et le bateau et l'argent du gouvernement. Nous serons les rois de l'océan, gare à ceux qui nous tomberont dessus, ajouta Petit Bon Dieu. Mais quel temps de chien ! Il affectait de parler bourgeois. Quelle bousculade ! Tu me marches sur les pieds, gueule de bois. Ce qu'on est tassé ici, on se croirait sur le boulevard le jour du 14 juillet. Et il fredonna en grattant le fond du plat. Et dans Paris, gorgé de troupiers. Chante, chante, ordonna gueule de bois. V'là l'art toupant, qui ne croit pas qu'on cause. Petit Bon Dieu, en s'essuyant la bouche de la manche de sa veste, acheva. Et dans Paris, gorge et troupier, où faut ben que je mène ma vadrouille, je n'aurai ben 20 millions de pétouilles qui viendront me piller les doigts de pied. Le garde chourmé passé, gueule de bois, dit « Non, mais ça se pourrait qu'on aille à Caracas, ou qu'il y a une révolution. On offrirait ses services à l'armée révolutionnaire, et puis c'est nous qui deviendrait le gouvernement. » « Ça, c'est une idée !» approuva Petit Bon Dieu. « Tu seras ministre de la Justice, et moi, ministre de l'Instruction publique. Tu verras comme j'éduquerai le peuple. Il n'y aura plus besoin d'assassins. » Et maintenant que vous avez dit assez de bêtises, fit le canac qui ne se déridait jamais, « pourriez-vous nous expliquer, monsieur Gueule de Bois, comment, sans armes, enfermés dans des cages et entourés de gardes et de soldats toujours prêts à nous fouiller, nous pourrions nous emparer du Bayard. Toi, t'es trop curieux, déclara le rouquin. C'est vrai, monsieur est fouinard, appuya Gueule de Bois. Chéri Bibi n'aime pas ça. Je vous dis qu'il a son plan. Et moi, je vous dis que sans armes, nous ne pourrons rien faire. Qui vous dit qu'on n'aura pas d'armes ? Je suis de l'avis du canac, déclara l'Africain. Et où que tu les prendras ? N'y en a-t-il pas à bord ? Oui, mais c'est pas pour nous. Le plan est bien simple, finit par laisser échapper Gueule de Bois énervé. Et se baissant vers ses compagnons du plat, on aura des armes. Autant qu'il faudra pour nous rendre maîtres de l'entrepôt. Le reste viendra après, comprenez-vous ? On aura des armes, des couteaux, des rigolos. Parfaitement ! Le moment venu, à la première ouverture de cage, on se jette sur la chiourme, le surveillant général, l'inspecteur, le second, enfin tout ce qui se trouve là, et on leur fait passer le goût du pain. On ouvre les autres cages avant qu'en haut on sache seulement de quoi ils retournent. Mais les sentinelles tireront, les soldats, les matelots accourront, c'est nous qui serons massacrés. Gros malin, fit Gueule de Bois avec mépris. Pour sûr qu'il n'y en a qui trinqueront, plus d'un qui n'avalera des dragées. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser des avergots, pas ? Le tout est de pas frousser et de courir au plus pressé. Sommes 800 zigs à bord qu'auront des armes. On courra aux écoutilles, et c'est les sentinelles qui trinqueront. Et puis, aux écoutilles, dans les couloirs, on fera des barricades avec des sacs, tout le fourbi qu'on trouvera dans la cale. Je vous dis, un chambard du diable. On se battra comme au temps de la Révolution, quoi. Tant pis pour les foies blancs. Moi, j'aime mieux crever comme ça que de m'éteindre au pré en arrachant des copeaux pour le gouvernement. » Un murmure d'assentiment accueillit les dernières paroles de l'orateur. Cependant, le canac ne paraissait pas tout à fait convaincu. Ce découpeur de lanières humaines était un scientifique. Il se méfiait de l'enthousiasme de Gueule de Bois, nature spontanée et peu réfléchie. Toutefois, il comprenait que Chéri Bibi l'eût choisi pour ses confidences, car Gueule de Bois avait, à cause de sa force herculéenne, de sa brutalité et de ses exploits, une réelle influence sur la pègre, avec laquelle Chéri Bibi était sûr qu'il ne le trahirait point, et qu'il aurait tôt fait d'exécuter le faux frère, qui, ayant connaissance de ses projets, ne les trouverait pas admirables. « La preuve que nous aurons des armes quand il voudra !» déclara Gueule de Bois en se levant. Mouvement suivi par tous les yeux des bagnards qui louchaient depuis un instant du côté de la conversation du lieutenant de Chéri Bibi. « La preuve, c'est qu'il a voulu aujourd'hui qu'on fasse guindale !» Boire en cœur. « À sa santé, nous avons assez grenouillé comme ça !» But de l'eau. « Allons, toi le rouquin, fouille tout au fond de ton flac !» Sac. Le rouquin obéit et faillit mourir sur le champ de stupéfaction, en sentant sous ses doigts le froid sympathique du verre d'une bouteille qui l'attira à lui tout tremblant. Tout le monde le regardait, à l'exception de l'innocent. Il y a toujours au moins un innocent par cage qui ne veut rien savoir de ce qui se passe autour de lui et qu'on laisse faire, ça n'y touche, à cause que, le plus souvent, son désespoir ne lui permet pas de manger et qu'il abandonne volontiers sa ration. À l'exception donc de l'innocent et de Gueule de Bois qui s'en était allé faire un tour du côté de la grille, histoire de surveiller les sous-cornes, tous avaient les yeux sur lui, même les malades qui se soulevaient pour voir, pour comprendre.
« C'était-il bien possible ? Une bouteille ? Une vraie grande fille, au ventre bien lodu ? Une belle chandelle ? Une cholette, comme il n'en avait pas aperçu depuis longtemps, car il n'avait pas le droit de se payer des douceurs à la cantine, comme les relingués, qui, eux, pouvaient avoir des sous et tout le bonheur qui s'achète avec. Tous furent debout, malgré le roulis, malgré le tangage, malgré la maladie. Accrochés les uns aux autres, les doigts frémissants, les yeux hors de la tête, ils regardaient la bouteille. Le rouquin, qui avait peur de la laisser tomber tant il tremblait, l'avait serrée dans ses bras, sur sa poitrine, et maintenant il la débouchait, les yeux fermés, les narines palpitantes, avec une figure d'extase. C'était du rhum. On allait pouvoir boire un pape. L'idée seule en enflammait les gosiers. N'avoir plus le droit à rien de rien, qu'à recevoir des coups de pied dans le derrière, comme des bêtes, et à crever de faim, et tout à coup apercevoir la lueur de ça, une bouteille de rhum. Quel miracle et quel mystère! C'était Chéri Bibi qui l'avait voulu. Lui seul pouvait une chose pareille. Lui seul aurait pu expliquer l'inexplicable. Comment cette chose prodigieuse, malgré une surveillance effarante de tous les instants et des fouilles continuelles, avait pu venir là? Celui qui avait fait venir cette bouteille de rhum ferait aussi bien venir des armes, c'était sûr, il n'y avait plus à douter. Toutes les férocités qui étaient là se donnèrent à lui, goulûment. « Heureusement, dit Petit Bon Dieu, que le seigle, second, n'est pas tombé sur le sac du rouquin. Ce qui prouve bien que le grand dab est avec nous, fit remarquer Gueule de Bois. Allons. « Une lampée pour tous, il y en aura pour tous !» Et il sortit à son tour 4 litres de rhum de son sac. Dans le moment où il sentait bien que l'on allait se tuer autour de la bouteille du rouquin, insuffisante pour une pareille chambrée. Alors, ce fut un sombre et délicieux délire. Il buvait, glougloutait, râlait de bonheur, se renversait la gorge, pâmé sous la brûlante coulée de l'alcool. Ceux qui n'avaient pas encore bu attendaient, les mains en avant, les doigts crochus, avec des grognements impatients, un halètement douloureux de la poitrine. Gueule de Bois maintenait l'ordre, et quand les artoupans passaient dans le couloir, faisaient disparaître les bouteilles.
et puis à nouveau on se ruait sur elle. Quand le baiser immonde se prolongeait trop sur le goulot, des voix sourdes et menaçantes criaient « Assez ! Assez !» et l'homme rendait la bouteille, les yeux en flammes. Quand ce fut fini, il y eut d'abord un silence, une espèce de prostration où ils s'abîmèrent en une ardente communion. Et puis tout à coup, un même acte de reconnaissance jaillit de toutes les poitrines. L'hymne rauque éclata. « La République nous emberluche, du bois de Boulogne à Pantruche. Qui fera sauter tout le fourbi ? C'est chéri Bibi, c'est chéri Bibi. » La galopade de la garde, les revolvers braqués à travers les barreaux, le commandant et le second qui accouraient avec un peloton de soldats, il fallut tout cela pour les faire taire. La cage, maintenant silencieuse, était condamnée à la boule de son et à l'eau pour 3 jours. Un artoupan découvrit les litres vides. Monsieur de Vilaine en pâlit de colère.
« Qu'est-ce qui vous a fait ce cadeau-là ? »
Silence.
« Qui est-ce qui vous a fait ce cadeau-là ? »
Alors les bandits, en chœur, repartirent.
« C'est chéri Bibi ! C'est chéri Bibi !»
Voyant leur exaltation due à l'alcool, dont ils avaient perdu l'habitude, le commandant, qui, autant que possible, ne voulait pas avoir d'histoire, ordonna la retraite.
« Vous ferez une enquête, »
dit-il au second quand ils furent dans le couloir, « et s'il y a faute des gardes, punissez sévèrement. »
« Des bouteilles dans les cages ? Mais c'est des armes, cela ! Oh, il faut savoir absolument ! C'est inimaginable !»« Absolument ! Mais ce qui est plus inimaginable que tout, commandant, » répliqua le second,
« c'est que les jurés n'aient pas condamné tous ces bandits à la peine de mort. S'ils les voyaient comme nous les voyons, il est probable qu'ils regretteraient leur faiblesse, je dirais même leur lâcheté. » Quand on pense qu'ils n'ont pas osé toucher à ce chéri Bibi.
Oui, c'est abominable.
Ce qui s'était passé au moment du dernier procès de chéri Bibi était en effet abominable. D'abord, 2 des jurés, dont le nom était sorti de l'urne et qui, malgré leurs efforts, n'avaient pas été récusés, s'étaient simplement évanouis. Et il avait fallu les frictionner pour les faire revenir au sentiment de leur devoir social. Tous avaient exigé du président des assises que des agents les accompagnassent après le procès jusque chez eux, et que la sûreté continuât à veiller sur leur précieuse personne. Enfin, ils avaient accordé des circonstances atténuantes, trouvant à chéri Bibi une responsabilité mitigée, lui sauvant ainsi la tête. L'affaire avait, du reste, été menée avec une douceur remarquable par un président poli qui semblait demander pardon à l'accusé de la liberté grande qu'il prenait de le juger. Pour mieux apprécier l'état d'âme de la cour d'assises de la Seine à cette époque, peut-être n'est-il point inutile de rappeler que, le matin même du procès, l'immeuble où se trouvait le débit de vin où servait le garçon qui avait dénoncé et livré son client chéri Bibi avait sauté comme une boîte d'artifice. Avertissement retentissant que messieurs les jurés avaient entendu. « Allons le voir, » dit le commandant qui se mit à descendre l'escalier conduisant à la batterie basse en avouant « Ce chéri Bibi m'empêche de dormir. » Ils traversèrent la batterie basse entre les cages. En haut, on y voyait encore à peu près clair grâce au hublot. Mais dans le second entrepôt, c'était la nuit avec quelques lueurs blafardes ou sanglantes tombées des falots que balançait la houle. Seul brillait le fer des barreaux, derrière lesquels des figures de démons apparaissaient, surgies des ténèbres, faces hideuses de cauchemars, qui regardait passer les artoupans, la mort dans la main. Les 2 chefs ne firent que passer et quittèrent le second entrepôt pour le 3e. Au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans cet enfer flottant, les ténèbres devenaient plus opaques. Il y avait des coins où l'on marchait à tâtons, en s'appuyant contre des murailles de fer, derrière lesquelles on entendait des plaintes ou des malédictions. Ils arrivaient dans le couloir des cachots toujours gardés militairement. À l'extrémité de ce couloir, tout au fond de cette géhenne, un garde leur ouvrit une porte. Et ils entrèrent, suivis d'un matelot, un falot à la main. Deux sous-cornes, gardes que les forçats mettaient encore au-dessous de l'artoupan, se levèrent sur le seuil du cachot et firent le salut militaire. Il y avait quelque chose d'accroupi au fond de l'ombre. Les deux chefs considérèrent quelques instants cette chose qui ne remuait pas. Était-elle morte? Était-elle vivante? Le commandant, un gros homme, très impressionné, résolut de s'en assurer. « Vous n'êtes pas honteux, chéri Bibi, lui dit-il, d'avoir craché à la figure de votre commandant ?» La chose, toujours immobile, avait une voix enrouée qui dit « Vous avez eu tort de prendre ça pour une injure personnelle. » Ce brave homme de commandant Barachon, qui ne demandait qu'à vivre tranquille, et à qui, par un affreux coup du sort, avait échu le devoir de conduire à destination une pareille cargaison de monstres, reçut la réplique de chéri Bibi en s'affalant. « Vous avez eu tort de prendre ça pour une injure personnelle. » Oui, il dut se retenir à la cloison tant il était ému. C'était trop fort à la fin. Chéri Bibi certainement se moquait de lui. Le peu d'énergie qu'avait laissé à l'excellent commandant la mise en pratique vis-à-vis de ses subordonnés, de ses théories sociales et humanitaires, en fut comme secoué. Il trouvait décidément que c'était De Vilaine qui avait raison, en traitant tous ces bandits comme des bêtes qui n'avaient plus rien à faire avec l'humanité. Et ce que les crimes, le passé, la sanglante gloire de Chéri Bibi n'avaient pu faire, c'est-à-dire lui faire oublier qu'un homme, si bas fût-il tombé, appartient toujours à la famille humaine, la blague du bandit l'accomplit en une seconde. Il détesta tous ces misérables, rageusement, ne leur pardonnant pas qu'il eût pu croire un instant qu'avec de bons procédés il allait les amadouer, les tourner vers le meilleur. Comment ? Il n'avait pas manqué une occasion, depuis le commencement de la traversée, de montrer à chéri Bibi que son cœur n'était point fermé aux misères de la question sociale, en apportant aux forçats quelque adoucissement à la rigueur des terribles règlements, en améliorant leur ordinaire et en s'occupant activement de leur état sanitaire. Il leur avait permis de temps en temps une petite promenade supplémentaire sur le pont, à seule fin qu'ils ne mourussent point tout à fait étouffés dans les entrepont. Et voilà comment il était récompensé. On lui crachait à la figure et on le priait de ne pas considérer cela comme une injure personnelle. Oui, oui, De Vilaine avait raison. Ça lui apprendrait, ça lui apprendrait. Désormais, il serait terrible. Et il commença. « Chéri Bibi, vous êtes une mauvaise tête !» La chose accroupie au fond de l'ombre ricana. « Imaginez, dit-elle, que c'est comme si j'avais craché à la figure de la société. Ça n'a rien de personnellement vexant pour vous, mon commandant. » Ah, cette voix rauque, cette voix enrouée, cette voix sinistre, sa façon de dire « mon commandant ». Comment pouvait-on avoir pitié de pareils misérables? Pourvu qu'il ne s'échappe point. Il serait capable de tout, de tout. Chéri Bibi avait déjà prouvé qu'il était capable de tout. Mais quand le commandant Barachon s'exprimait ainsi, il comprenait. De tout contre le commandant Barachon, c'est-à-dire de lui prouver tous les ennuis résultant d'une pareille évasion, sans compter les forfaits qu'il était capable d'accomplir à son bord. Un homme qui avait osé imaginer de faire sauter le palais de justice ne verrait certainement aucun inconvénient à brûler la cervelle du commandant Barachon. Allons, il fallait être prudent. Chéri Bibi resterait au fer jusqu'au bout de la traversée. Et il le lui annonça. Tant mieux, fit la voix de l'autre. Je vous aime mieux comme ça. Vous me dégoûtez moins.
Approche ton falot,
hurla le commandant à son matelot. Et il examina minutieusement les fers appelés barres de justice. C'est une longue tringle de 30 millimètres de diamètre avec des maillons pour tenir les jambes croisées et, au besoin, les bras. Avec Chéri Bibi, on avait besoin de croiser les bras. Les maillons, une fois remplis par les membres, on les enfile à la tringle et on les fait glisser à la place qu'ils doivent occuper. Ensuite, on ferme le bout de cette tringle au moyen d'un gros cadenas qui sert de boulon. L'autre extrémité de la barre est terminée par un bourrelet en fer qui ne permet pas au maillon de glisser. L'excellent commandant Barachon constata que barre et maillon étaient en place et les membres de Chéri Bibi aussi. Le falot n'éclairait que la partie basse de la chose accroupie dans l'ombre. La chose dont on entendait maintenant la sifflante et haineuse respiration sans en voir la tête. Le commandant avait pris des mains du matelot le falot et n'avait garde d'éclairer la tête, car la tête de Chéri Bibi lui faisait toujours peur. Les mains, les pieds enchaînés, il pouvait voir cela. Mais la tête, l'horrible tête qui avait craché, non, non, il ne pouvait plus la revoir. Il frissonnait à la seule idée de la physionomie terrible que devait avoir cette tête depuis qu'il avait annoncé les fers pour toute la traversée. Car enfin, c'était comme s'il avait annoncé la mort. Le falot se sauva au bout de la tringle pour examiner le cadenas qui était bien fermé comme il fallait. Le bon, lourd, épais, solide, honnête cadenas dont le commandant gardait la clé, l'unique clé, dans sa poche. Et Barachon se releva avec un soupir. Il était plus tranquille d'avoir vu cela. « J'ai toujours regretté, dit-il au lieutenant de Vilaine, que ces instructions, qui rappellent la honteuse Inquisition et le triste Moyen-Âge, fussent encore en pratique dans notre marine pour punir les plus légères infractions à la discipline et au règlement. Mais vraiment, je ne regrette plus que nous disposions encore de ces derniers vestiges de la barbarie, quand nous avons à nous assurer d'un pareil forcené.
« Poil au nez !» fit la voix de l'ombre. « L'entendez-vous ? C'est le crime lui-même qui parle !» reprit Barachon exaspéré. « Le crime dans tout son cynisme et dans toute son horreur ! Le crime sans nom !»«
Si, puisqu'il s'appelle Chéri Bibi !» glapit l'orgueilleuse voix de l'ombre.
« Ce misérable ne respecte rien. Il a peut-être des parents qui pleurent ses crimes, mais il a oublié ses parents comme il oublie ses crimes eux-mêmes. »«
J'ai la mémoire si fatiguée, » répliqua la voix. « J'ai beaucoup abusé des femmes. »«
Sauvons-nous, » fit le commandant. « Je le tuerai et je me le reprocherai toute ma vie. »«
Et moi, je vous en féliciterai toute la mienne. » dit Monsieur de Vilaine.
Le commandant se tourna vers les deux hommes qui ne quittaient pas Chéri Bibi.
« J'ai donné l'ordre qu'on relevât la garde toutes les heures. Ce sera moins fatigant. Vous connaissez la consigne. Ne pas parler, ne pas répondre aux 3216, jamais !»
À ce moment, un sinistre sanglot se fit entendre au fond de l'ombre. C'était si affreux et si douloureux que les deux officiers en furent singulièrement émus. Le commandant n'y tint plus. Il leva son falot à hauteur de la tête de cette chose qui avait pleuré. Et tous les cinq, les officiers, les deux gardes et le matelot, reculèrent d'épouvante. Ils avaient en face d'eux l'homme qui rit. Ceux qui avaient vu cela ne devaient jamais oublier l'abominable vision. Ce rire sanglant sous la lueur rouge du falot, cette grimace monstrueuse de l'homme qui les insultait de son rire élargi jusqu'aux deux oreilles, parce qu'ils avaient cru à son gémissement et avaient eu une seconde pitié de sa douleur. Le commandant laissa tomber son falot,
qui se brisa et s'éteignit, et l'horrible chose disparut à nouveau dans la ténèbre. Barachon, étouffant, titubant, poussa la porte du cachot, se rejeta dans le couloir. « Il rit !» murmura l'excellent homme, secoué de frissons. « Ce monstre devait rire quand il découpait la petite bonne en 17 morceaux !» La porte n'était pas encore refermée. L'autre avait entendu, et la voix enrouée rattrapa la fuite de Barachon. « J'avais tort de croire que ça ne m'a pas fait de l'effet. Le soir même, fallait que je prenne un bain de pied de moutarde. » Barachon et de Vilaine se laissèrent retomber de tout leur poids sur la porte pour ne plus entendre. Puis ils remontèrent les degrés de l'enfer, qui autour d'eux, au-dessus d'eux, au-dessous d'eux, semblait à nouveau s'emplir de clameurs. Quand ils n'apercevaient pas un gradé, un chef, on ne pouvait faire taire les bandits. Ils se renvoyaient de cage en cage, de cachot en cachot, de la batterie basse à la batterie haute, des chants immondes, des injures, des malédictions, des défis, des obscénités. Mais le commandant et le second ne pensaient qu'à Chéri Bibi. Heureusement pour tout le monde qu'il crèvera avant la fin de la traversée, fit de Vilaine. Comment cela ? Demanda Barachon en s'arrêtant, un pied sur la dernière marche de l'échelle qui débouchait dans le second entrepôt. « Pourquoi voulez-vous qu'il meure ? Il ne pourra pas subir les fers jusqu'au bout. Ses pieds et ses mains sont déjà en sang. »« Diable ! Diable ! » réfléchit tout haut le commandant. « Voilà une question de conscience. Allez-vous avoir de la conscience avec ces gens-là ? « Il faut avoir plus de courage que les jurés, mon commandant, voilà tout. Écoutez-les !» Le vaisseau résonnait lugubrement du chant de la chiourme. « Rien à faire avec la canaille, » reprit le lieutenant. « Si on voulait, une bonne saignée les mettrait vite à la raison. » Le commandant n'eut pas le temps de répondre. Un grand, long corps blanc lui roulait dans les jambes, s'agrippait à lui au passage, le faisant légèrement basculer, continuait sa descente rapide, les 4 fers en l'air, dans l'échelle, et aurait roulé jusqu'au fond de la cale au cachot si le second ne l'avait arrêté tranquillement au passage. Les officiers avaient reconnu l'aide-cuisinier, le second du maître coq, qui décidément n'avait pas le pied marin. Le roulis et le tangage faisaient de lui, depuis le commencement de la traversée, à peu près ce qu'il voulait. Le malheureux ne pouvait pas se tenir debout. À cause de cela et de sa maigreur, il était la joie des artoupans et des matelots, qu'il avait surnommé « la ficelle ». Il se releva en s'excusant. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » demanda le commandant. « Vous voyez bien, commandant ? » répondit sérieusement la ficelle. « Je ramassais mes plats. » En effet, des hommes le suivaient avec les baquets des forçats. Il s'agrippa à la corde de l'escalier et ajouta « Vous savez, mon commandant, que le chef a fait son compte dans la cambuse devant l'inspecteur. Il ne manque pas une bouteille de rhum. » Ayant dit, une secousse plus brusque lui fit lâcher sa corde et il continua son chemin sur le dos, dans la batterie basse. « Cette affaire est inouïe !» gémit le commandant. « Oh, je vous jure bien que je l'aurai tiré au clair avant la fin de la journée !» fit de Vilaine. « Ce doivent être des bouteilles qui leur auront été vendues par les surveillants. » À l'annonce, faite militairement, du retour des 2 officiers dans la batterie basse, les chants se turent pour reprendre aussitôt que le commandant et son second furent passés. Et ce fut au tour de la batterie haute d'éteindre momentanément ses clameurs. « V'là le mécart et le seigle !» Le mot d'ordre courut de cage en cage. Les 2 officiers s'arrêtèrent un instant devant la cage des financiers. Non point que l'on eût réservé un compartiment spécial à ces messieurs de la banque, mais cette cage devait son nom à la majorité de banqueroutes frauduleuses et d'escroqueries compliquées d'abus de confiance qui s'y trouvaient, mêlée aux éléments ordinaires de vulgaire banditisme. Les uns et les autres, du reste, étaient vêtus de même sorte. On n'eût pu discerner des pégriots l'escroc du grand monde, le notaire qui était naguère l'honneur du canton, le banquier véreux qui avait étonné le chef-lieu de son luxe, ni tous ces beaux messieurs gouailleurs qu'admiraient devant les juges ou les jurés de jeunes personnes faciles à émouvoir. Humbles, affaissés, terrassés par la promiscuité du crime, en sabots ou en savates, ils ne se faisaient plus guère remarquer. À l'exception toutefois de Boules de Gomme, qui avait de temps à autre, et au moment où on s'y attendait le moins, un petit ricanement aigu et sec, grelottant comme une roulette de sifflet, et qui avait le don de mettre toutes les surveillances en fureur. Les officiers passèrent ensuite dans un autre compartiment, devant la cage des femmes. Une quarantaine de malheureuses, reléguées, qui, apercevant le commandant, se mirent à se lamenter, à gémir à fendre l'âme. « Avez-vous fini de chigner ?» grinça l'une d'elles, dont la figure pâle, aux yeux de flamme noire, vint se coller à la grille. « Ah, ce n'est pas elle qui pleurnichait, la comtesse. Toujours en rage, toujours en révolte, elle ne cessait de tourner dans sa cage comme une hyène furieuse, écartant de solides coups de patte tout ce qui gênait sa promenade circulaire. Les autres la redoutaient, car elle était forte et cruelle, et elle mordait. Elle était étrangement, fatalement belle. Elle l'avait tout de suite appelée la comtesse à cause des grands airs avec lesquels elle avait débuté devant la chiourme. Et puis, un jour, elle s'était mise tout à coup à parler argot, comme si elle n'avait fait que ça toute sa vie, et les avait dominés par son incroyable cynisme. La comtesse avait été la maîtresse du Canac et condamnée en même temps que ce singulier médecin pour des choses que l'acte d'accusation lui-même n'avait pas osé dire. Enfin, on les soupçonnait tous deux de manger de la chair humaine. Barachon et Vilaine étaient arrêtés devant cette bête de proie accrochée au barreau. « Qu'est-ce que tu veux, Micard ? Veux-tu que je te fasse la barbe ?» Et aussitôt le commandant poussa un cri de douleur, car la comtesse, allongeant brusquement sa griffe, lui avait accroché le menton. « Je tiens ton foin ! Je tiens son foin !» Il fallut un coup de crosse de revolver, asséné par le second, pour qu'elle lâchât prise. Elle se jeta en arrière en piaulant, comme le fauve vaincu par les pieux des gardiens de cage, au fond des ménageries. Le second donna des ordres pour qu'elle fût conduite au cachot tout de suite. « Oh !» soupira le commandant. « Sauvons-nous ! Remontons vite à la lumière du jour ! Quittons ces lieux maudits !» De Vilaine le suivit en haussant les épaules. La pusillanimité du commandant et sa façon prudomesque de s'exprimer avaient le don de l'exaspérer. Ce brave Barachon était au bout de son courage et de son dégoût. Il glissa entre les dernières cages comme s'il fuyait et poussa un soupir de délivrance en remettant le pied sur le pont. Cependant qu'au-dessous de lui, l'enfer grondait à nouveau de ses terribles chants. « Mais qu'est-ce qu'ils ont à chanter comme ça ? Nous n'avons jamais entendu ça !» dit-il à Monsieur de Vilaine. « Il se passe quelque chose que nous ne savons pas. »« La chiourme a toujours aimé chanter, » répondit de Vilaine avec un froid sourire. « Savez-vous, mon commandant, d'où vient ce mot « chiourme » ? Il vient de l'italien « chiourma », dérivé du grec « kelesma », et il veut dire « le chant des rameurs ». Qu'y a-t-il de plus doux au monde que le chant des rameurs ? Le commandant s'enfuit. Il s'enferma dans sa cabine. Les plus sinistres pressentiments l'assiégeaient. Particulièrement, le mystère des bouteilles de rhum, trouvées aux mains des forçats, l'inquiétait. Heureusement qu'il disposait d'une force armée sérieuse. Mais de cette force, avait-il jusqu'ici suffisamment usé ? Sa faiblesse n'avait-elle pas peu à peu engendré l'état de révolte dans lequel se trouvait son exceptionnelle cargaison? S'il avait osé laisser faire aux armes une ou deux fois seulement, comme c'était son droit, on ne chanterait plus dans les cages. Mais aussitôt il se demandait, après tout, pourquoi les empêcher de chanter? Pourquoi? Et il savait bien que ce n'était pas cela qui le gênait, mais autre chose qui était au fond de tout cela, tout au fond du navire, et qui n'était ni plus ni moins que Chéri Bibi. Il l'avait avoué à son second. Celui-là seul l'empêchait de dormir. Comme il en était là de ses réflexions, on frappa brutalement à la porte et il vit entrer M. de Vilaine, qui était d'une pâleur de mort. « Qu'y a-t-il ? » lui demanda le commandant d'une voix mal assurée, car il était déjà persuadé qu'il allait apprendre un affreux malheur. « Il y a, » fit rapidement M. de Vilaine, « que le numéro 3216 s'est sauvé. »«
Chéri Bibi ? » ?»«
Oui, Chéri Bibi n'est plus dans son cachot. » Le commandant Barachon fit un demi-tour sur lui-même et s'affala sur son canapé. « Mais enfin !» s'écria le commandant en sursautant. « Ça n'est pas possible ! Et les gardiens ?»«
Les deux gardiens sont morts. La relève de garde vient de les trouver étranglés derrière la porte du cachot. Les fers sont toujours cadenassés et Chéri Bibi a disparu. »«